Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
La 15e étape du Tour de France, aujourd'hui au programme des coureurs du peloton. On atteint ce soir la fin de la deuxième semaine de course. Il en restera donc une dernière avec une journée de repos demain. Et puis les trois étapes pyrénéennes qui vont sans doute décider du classement général. On rappelle que Vingegaard est toujours maillot jaune avec la même avance que lorsqu'il a emporté l'étape au col du Granon. C'était dans la semaine, 2 minutes 22 sur Pogacar, le porteur du maillot blanc qui a tenté. Hier, on réécoutera ça dans quelques instants. Avant cela, on va faire un nouveau point sur la situation de course, une situation qui risque de perdurer encore un long moment avec trois hommes en tête et le peloton qui chasse à 2 minutes derrière. Le top course tout de suite avec Pierre.
Le premier coureur s'appelle Wout Van Aert. Il est accompagné de deux hommes de talent que sont actuellement, et ça risque de durer comme tu le disais, Michael Honoré et Nils Polit. Et puis tout là-bas, tout au fond sur la route, seul au monde ou quasiment, Michael Morcoff à 6 minutes 30. Le peloton, lui, bien groupé, est à 2 minutes 05 emmené par les équipiers de Jesper Philipsen. Non, ce sont les Trek-Segafredo qui roule actuellement. Les Alpecin sont dans la roue. Ben voilà, ça se relaye entre les Alpecin, les Trek Segafredo et les Bike Exchange, des équipes de sprinteurs évidemment. 2 minutes d'avance à 164 km de l'arrivée pour les trois hommes de tête.
RMC
Intégral Tour.
Oui, Morcov va passer une journée galère. Hein. Va-t-il aller jusqu'au bout de cette étape? On peut se poser la question. Tout à l'heure, on se disait, oui, c'est une sorte de journée de repos, mais quand on est tout seul dans la pampa, relégué c'est quoi l'écart, tu disais, Pierre?
6 minutes 30.
6 minutes 30, alors qu'il reste plus de 150 bornes encore à couvrir. Ça va être très, très long, la journée. Est-ce qu'il va aller au bout?
Ça, c'est la question. Alors, on a dit, les délais ont été rallongés à 20% par rapport au temps du vainqueur, mais quand vous êtes tout seul, très loin, je peux vous dire, les kilomètres, ils défilent pas vite. Hein. On ne sait même pas s'il a une voiture de directeur sportif avec lui pour l'encourager, pour le maintenir dans la course. Souvent, il y a des coureurs qui sont lâchés en début de course, mais une fois que l'échappée est partie, le peloton s'arrête vraiment ralentit fortement pendant quelques minutes et ça permet aux attardés de rentrer. Mais là, le peloton sont obligés de rouler à une très bonne allure, à une haute vitesse pour pouvoir garder cette échappée de costaud avec Polit, Van Aert et Honoré à portée de fusil. Donc, ils ne se sont jamais vraiment relevés pour l'instant, le peloton, et ça va être compliqué. Alors, c'est sûr, il rentrera pas, mais ce qui va terminer l'étape et la terminer dans les délais, c'est une autre histoire.
20%, ça représente à peu près combien sur une étape comme ça?
Je vais te dire ça tout de suite, on va calculer.
Ça va être 45 minutes, une heure,
à peu près une heure.
Ouais, c'est ça.
Entre les deux.
Ouais. Entre les deux, entre 45 minutes et une heure, Arnaud.
52 minutes, je dirais moi.
Comme oui, ça. C'est ça.
Ouais,
c'est
à vue de nez.
Tout à fait. Oui, c'est dans ces eaux-là.
Mais non, mais
dans ces eaux-là.
Vous
dans
pouvez.
Bah, après ça.
Mais
ça
vous pouvez pas. Ben voilà, vous pouvez pas le calculer pour l'instant. Mais on pourrait faire des paris, hein.
Ah bah tiens, parions sur tout.
Mais oui, comme les Anglais qui parient sur la couleur du chapeau de la reine, on pourrait bien parier sur le pourcentage et le temps de délai du jour. Ah, tiens, ça, c'est un nouveau pari.
Tiens, ce petit tweet qui m'a bien fait marrer tout à l'heure de Mika qui nous suit tous les jours, oui, et que je salue parce qu'il me fait vraiment marrer tous les jours. Ce matin, il nous disait, les visions de Peel, donc de Pierre-Yves Leroux, c'est pareil que celle du druide. En 15 jours, tu as perdu un SMIC.
C'est vrai que ça dépend. C'est pareil, ça dépend de ce que vous misez. Voilà, hein, faut pas miser trop haut avec les paris que je conseille. C'est vrai qu'Anthony Pérez aujourd'hui, c'était peut-être pas une bonne idée, mais.
Et tu avais donné Michael Matthews aussi.
Oui, j'ai surtout donné Michael Matthews.
Voilà. Hein. T'en as donné. Maintenant, t'as le droit à deux coureurs.
Non, Jean-Christophe Drouet tout à l'heure dans les paris nous a demandé avec Jérôme une grosse cote. Donc là, on est allé chercher beaucoup plus loin. Jérôme, toi, tu avais donné. Jérôme, tu avais donné quoi comme grosse cote?
Florian Sénéchal, ah oui, j'avais donné. Parce que je me disais que si Jakobsen passait pas la bosse, il pouvait se rabattre sur Florian Sénéchal. Et on rappelle qu'à l'étape où Pedersen a gagné, il a tapé du poing sur la table dans son équipe en disant, je me sens bien, on peut rouler pour moi, on peut y aller. Il avait terminé deuxième du sprint du peloton derrière Van Aert. Donc c'est une grosse cote. Il était coté à 40, je crois.
Tu l'imagines taper du poing sur la table avec Patrick Lefebvre autour de la table?
Non, alors pas. C'est une image. Mais il faut quand même avoir un bon courage, on va dire, des coronesses, comme on dit, pour dire je me sens bien, les gars, roulez pour moi. On est quand même dans l'équipe Quickstep, mais pour avoir couru avec lui chez Cofidis, il a toujours assumé ses responsabilités. Il n'hésitait pas à dire je suis bien, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais c'est bien d'avoir des coureurs comme ça qui savent prendre des risques et qui savent dire à leur équipe, ok, aujourd'hui je me sens bien, on joue ma carte.
Alors Sénéchal, ok, mais il a ses équipiers qui se trouvent dans le groupe de tête, donc peut-être si celui-ci est rattrapé d'ici l'arrivée, aura-t-il sa chance. Et si Jakobsen Jakobsen se fait larguer tout à l'heure dans les ascensions qui seront nombreuses tout au long de cette étape, 162 km. On va repartir à l'avant de la course en compagnie d'Arnaud et Marco qui sont à l'avant sous la chaleur et qui entendent les cigales, messieurs.
Ah, j'entends pas les cigales, on les entend pas, mais certainement doivent-elles chanter au bord de la route. C'est vrai qu'encore une fois, la météo s'y prête, on a atteint les 38 degrés il y a quelques instants. On s'arrose comme on peut, nous aussi, sur la moto. Moi, je passe mon temps à me mettre de l'eau sur le visage, sur les bras et dans le cou, histoire de me rafraîchir un petit peu, parce que ça fait un petit peu mal à la tête. Pour vous dire également qu'on a vu donner une petite statistique comme ça, Wout Van Aert qui est pas venu pour acheter du terrain, encore une fois aujourd'hui, 96 km heure il y a quelques instants dans une descente pour le Belge qui justement descendait tambour battant avec dans sa roue ses deux compagnons d'échappée. Ça rigole pas pour Wout Van Aert, je peux vous dire que ça rigole pas pour Wout Van Aert et ça moufte pas derrière, il y a pas un bruit, il y a pas une oreille qui dépasse là du côté de ses deux compagnons d'échappée, Michael Honoré et Nils Politz.
Et pendant ce temps-là, l'avant-garde du peloton, les coéquipiers de Groenewegen et de Michael Matthews essayent de limiter les écarts. Pour l'instant, opération plutôt réussie. On est à 2 minutes 15 seulement.
Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que ça dépasse trop les 2 minutes. On parlait de la chaleur, Christophe, il y a un instant. Toi, tu avais connu ce fameux tour 2003. Il y en a eu de nombreux où la chaleur était présente. Mais là, sur les 20 dernières années, celui-là, c'était particulier. Est-ce que, une question toute bête, est-ce qu'on se met de la crème pour éviter les coups de soleil? Comment on se protège ?
Ouais, effectivement, on essaie de mettre un petit peu de crème parce qu'à un moment donné, ça commence à être un peu brûlant. On prend plus que des coups de soleil, ça devient inquiétant. Donc, on met des protections solaires. On pense à s'hydrater au préalable énormément avant le départ et surtout s'hydrater tout au long du parcours, de refroidir la température du corps. Aujourd'hui, on voit des petites bourses de glace qui permettent de refroidir le corps.
Je t'interromps juste, oui. Christophe, un instant, parce que Wout Van Aert, on nous annonçait par Radio Tour à l'instant qu'il se relevait, mais c'est pas l'impression que j'ai, Arnaud. C'est bizarre.
Si, j'ai bien l'impression qu'il est en train de se relever. Alors attendez, laissez-moi essayer de l'apercevoir.
On lui fait signe, je crois. Ouais, c'est bizarre. Alors, il est allé voir sa voiture.
Oui, en tout cas.
Ouais. Il est allé voir Arnaud, je t'explique parce que on voit précisément
il se relève.
En fait, il est allé voir sa voiture. Il prend un coup de chaud. J'ai l'impression. On est en train de parler de la chaleur. Christophe, il s'arrose. Jérôme, on a l'impression qu'il s'arrose. C'est bizarre.
Oui, il s'arrose. Pardon, Arnaud, il s'arrose, mais je pense pas qu'ils prennent un coup de chaud. Ils ont bien vu qu'à 3 ça allait être compliqué d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc ils le font. Ils le font se relever. Bonne nouvelle pour le peloton. Hein. Ça sera un peu moins difficile de rejoindre les deux hommes de tête quand vous avez un Wout Van Aert en plus. Ça paraît compliqué. Voilà. Je pense que ça servait à rien pour Wout Van Aert de slimé trop à l'avant de la course. Pour moi, c'est un bon choix stratégique de l'équipe Jumbo-Visma.
Cyril, c'est une bonne idée.
Mais c'est la deuxième fois que ça se produit déjà,
ouais,
depuis le départ du Tour. Je pense que c'est une décision intelligente.
C'est-à-dire que s'ils avaient pris 3-4 minutes, il aurait pu continuer à rouler, mais là, il a vu que l'avance...
Oui, mais là, c'est dans le rêve. Hein.
Ouais, 3-4 minutes, ou s'ils étaient 7 ou 8 au minimum à l'avant, là, il l'aurait laissé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, à 3, ils voient tout de suite que le peloton les tient en laisse, à cadenasser la course, ça ne servait à rien de forcer. Et là, par contre, ça va devenir très long pour Nils Politz et Miguel Honoré.
Et là, il se laisse une chance finalement de remporter l'étape tout à l'heure.
Parce exactement.
Que là, il a donné, mais ça a duré combien ? Une cinquantaine de kilomètres, même pas ?
Oui, à
peine. Oui, c'est 40. Donc, du coup, il s'est un peu cramé, mais pas complètement. Il va pouvoir se refaire pour.
Non, vous inquiétez pas. Avant qu'il soit cramé, lui, oui, il y en a d'autres qui seront passés par la rue du cimetière. Hein. Moi, je comprends pas qu'il parte dans ce coup-là. Où il doit réagir beaucoup plus tôt. Il doit rester 3 étapes pour les sprinters. Vous pensez quand même pas que les équipes qui ont des sprinters,
oui,
d'un seul coup vont dire oh ben c'est Van Aert qui est devant. Bon, c'est très poli tout ce truc là. D'ailleurs on va leur faire honneur. Non, attends, il y a un moment, il y a la vraie course quoi. Les directeurs sportifs des équipes de sprinters, en plus celles qui sont fanies depuis le départ, bon, elles sont obligées de mettre à la barre. Donc vous savez que ça va pas aller au bout. Donc au bout d'un moment, le directeur sportif dit ce serait peut-être bien que t'oublies pas que t'es le maillot jaune derrière et que ça sert à rien d'être devant. Mais ce que je comprends pas, c'est que une fois que le coup est parti, qui a pris on va dire 30 ou 40 secondes, à ce moment-là, il devait décrocher à ce moment-là. Bah. Mais pas attendre 40 bornes, ou alors qu'il y ait un gros groupe qui revienne avec les sprinters. Mais de toute façon, c'était cuit. Aujourd'hui, c'est l'étape pour les sprinters.
Moi, ce que je comprends pas, c'est plus la manière dont l'échappé sort. Parce que c'est à chaque fois lui qui provoque, mais il est tellement fort qu'il emmène avec lui. Alors, soit il part tout seul, comme il a fait l'autre fois avec le maillot jaune, ou soit il emmène que un ou deux mecs avec lui. En fait, c'est lui.
Il faudrait qu'il attaque plus doucement,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est exactement ça. Il faut qu'il en attende quelques-uns avec lui. Il est tellement fort, il fait tout péter. Il y en a qu'un ou deux qui peuvent le suivre. Et après, bien sûr, à trois, l'entreprise est quasiment impossible. Il faut qu'il se relève. Ouais, s'il visait vraiment l'étape aujourd'hui, fallait pas qu'il attaque aussi fort que ça. Il fallait qu'il essaye d'en emmener un peu plus avec lui.
On verra s'il souffre tout à l'heure des séquelles, mais des conséquences de cette échappée de 40 km.
J'en doute.
Hein. Ouais, t'en doutes. Oui. Ouais, c'est vrai qu'avec Van Aert, c'est un garçon tellement au-dessus du lot que.
Ah non, honnêtement, vous êtes obligé de reconnaître.
Ah, mais bien sûr.
Qu'il est aérien, il est bionique, il est tout ce que vous voulez.
Mais là, il y a dû avoir des oufs de soulagement dans les voitures de directeurs sportifs et pour les coureurs quand ils ont entendu que Wout Van Aert se relevait à l'avant, parce que sinon, ça allait être un sacré bras de fer dans le final. Là, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, sauf à Nils Polit et Honoré à l'avant, qui se retrouvent plus qu'à deux.
C'est pas une très bonne nouvelle pour les deux restants, parce que du coup, ils se retrouvent bien seuls avec un 1000 cm3 en moins.
Tiens, Florian, sur le hashtag RMC Live, il a calculé les délais.
Mais on les a calculés.
Non, mais Florian, il est sûr. Alors, on va voir si vous êtes d'accord. Ouais. Une heure, donc 60 minutes. 20% pour une heure, c'est 12 minutes. 4 heures de course, ça fait 48 minutes de délai. Et 4h30, ce serait 54 minutes de délai.
C'est ça. À 46 de moyenne.
D'accord.
Ouais. Juste. À 46 de moyenne, c'est 48 minutes. Donc, entre 48 et 53 minutes, ça va dépendre de la vitesse du peloton.
Donc, 54 minutes.
Non, mais on est heureux qu'il confirme nos calculs. Hein,
mais non, mais il essaye de vous aider. Parce que
on s'y est mis à
sympa. Merci, Florian. Qui nous donne toujours plein d'informations.
On s'y est mis à trois, hein, d'ailleurs, avec Christophe et Cyril pour y arriver, hein, pour tomber comme lui. Donc, heureusement.
14h15, 2 minutes 18 d'avance pour non plus les trois hommes de tête, mais les deux hommes, Honoré et Polit, qui ont donc vu Van Aert les lâcher. Pas sympa, quand même, Van Aert, de pas les accompagner jusqu'au bout. Van Aert qui a attendu que le peloton le rattrape.
C'était un lâcheur,
ce Belge. Il s'est désormais mis dans la roue de son maillot jaune de leader, Jonas Vingegaard. On parlera tout à l'heure de l'abandon de Roglic ce matin, puisque nos reporters ont rencontré tout à l'heure Frans Madsen, l'un des DS de la formation de Jumbo. Il nous expliquera les raisons et pourquoi aujourd'hui Roglic a quitté le Tour de France. Auparavant, on va revenir sur l'étape d'hier, si vous le voulez bien. La 14e étape, donc, qui conduisait le peloton à Mende, au sommet de cette côte incroyable, la côte de la Croix-Neuve, qui a vu une course se dérouler en deux parties, pour la victoire d'étape et ensuite pour le classement général. C'était donc hier sur la route du Tour de France.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous. Si on vous passe la musique du générique de la Grande Vadrouille, c'est parce que nous sommes ici à l'aérodrome de Mende, là où a été tournée la scène finale de la Grande Vadrouille.
46 km à parcourir et on l'avait dit, ce groupe-là ne peut pas rester à 23. Michael Matthews a mis le feu et derrière, ça a réagi avec Kron, Luis Leon Sanchez et Félix Grosschartner.
Honnêtement, on est incapable.
Matthews qui accélère en tête du groupe de 3 et on a du mal à suivre derrière. Ouais, Bettiol qui s'est extirpé du groupe de contre-attaque alors que Thibaut Pinot n'a pas pu suivre. Mais Bettiol, effectivement, qui est en train de faire l'effort et qui revient à grandes enjambées sur Michael Matthews. On est à 3 km de l'arrivée, 1,6 km du passage de cette côte de la Croix-Neuve. Et Thibaut Pinot qui est en train de lâcher Solaire, mais il est loin. Il est à 40 secondes environ. C'est trop tard pour Thibaut Pinot. Pourquoi n'a-t-il pas attaqué? Plutôt, il n'avait pas les jambes peut-être pour le faire. Michael Matthews désormais qui s'envole et qui va aller chercher la victoire. Bettiol ne peut rien faire. Il ne peut pas s'accrocher à la roue de l'Australien.
Encore 300 mètres dans la montée, alors que Thibaut Pinot, lui, en a encore 400 ou 500. Il est encouragé, follement encouragé dans cette montée, mais ça sera trop tard, très certainement. Car Michael Matthews va passer au sommet en tête. Il a fait le trou avec Bettiol qui est maintenant 100 mètres derrière. Il est le long des balustrades, le long des supporters pour s'abriter aussi un petit peu. Il lui reste 100 mètres encore. Et il fait le signe, voilà, qu'il a pu vraiment se promener sur cette étape. Europe, le regard vers le ciel, les bras qui prennent la tête et les bras en croix pour passer la ligne. Michael Matthews s'impose, amende devant Bettiol.
C'est parti, il attaque. Pogacar, le maillot blanc qui attaque dans cette montée de la Croix-Neuve avec Vingegaard qui est dans sa roue. Il n'a pas été lâché, le maillot jaune.
Vingegaard, peinard, tranquille, il aura parfaitement géré aujourd'hui et Pogacar ne peut que constater que derrière lui, il a un scotch collé.
RMC Intégral Tour.
Voilà, course à deux étages hier, la course pour la victoire d'étape et le superbe numéro de Michael Matthews et donc la lutte pour le classement général qui n'a donc pas donné grand-chose, rien de nouveau en tous les cas puisque Jonas Vingegaard a su répondre de manière très efficace aux attaques de Pogacar, notamment dans la montée de la Croix-Neuve. Ce garçon est incroyable. Christophe, tu n'étais pas avec nous hier mais tu as écouté et tu as regardé évidemment cette étape. Aujourd'hui, on se dit que Vingegaard sera très difficile à décramponner d'ici l'arrivée sur les Champs-Élysées dans une semaine maintenant.
Ah, c'est clair, il est dans la maîtrise, il a contrôlé absolument les attaques de Pogacar, avec beaucoup d'aisance d'ailleurs, et c'est clair qu'il va falloir que Pogacar se lance son va-tout sur trois étapes prépondérantes à partir de mardi jusqu'à jeudi. Étape difficile, encore très chaude, la troisième semaine va parler, la fatigue, la fraîcheur, en tout cas Vingegaard tient le couteau par le manche pour l'instant et il contrôle de main de maître.
Ouais, 2 minutes 22, ça ne se rattrape pas comme ça, à moins d'un coup de fringale ou d'un coup de chaud. Voilà, Vingegaard est un Danois quand même, il n'est pas habitué aux chaleurs comme ça.
Par contre, c'est vrai que peut-être que Pogacar pourrait lui grappiller quelques petites secondes par-ci, par-là, parce que le contre-la-montre de 40 km est plutôt en la faveur de Pogacar que de Vingegaard. Néanmoins, ce sera compliqué, il va falloir qu'il attaque.
Parce que 2 minutes 20, il peut peut-être lui gratter quelques secondes, même si on l'a vu avec Jérôme l'autre jour, l'année dernière, sur le Tour, une fois Pogacar était arrivé avec 25 secondes d'avance, et sur l'avant-dernière étape, c'était l'inverse qui s'était produit. Donc c'est difficile de dire si Vingegaard est vraiment inférieur à Pogacar sur les chronos. Peut-être sur 40 km, il y en a 10 de plus que l'année dernière quand même.
Ouais, et puis peut-être que Pogacar est peut-être un petit peu moins fort, il est peut-être un petit peu plus faiblissant. Et on a vu, ses attaques hier n'étaient pas tranchantes. Et Vingegaard contrôle parfaitement, il a une aisance parfaite, il est dans son sujet, il a le maillot jaune. Et Pogacar, c'est à lui d'aller chercher les secondes. Et je pense que vraiment, Vingegaard sera difficile à aller chercher malgré ce chrono de 40 km. Et ces trois grosses étapes avec une arrivée très très difficile du côté d'Otakam.
On était ensemble dimanche dernier, personne dans le groupe, dans l'équipe imaginait la prise de pouvoir de Vingegaard tout de même. Je ne sais pas si toi tu pensais vraiment
il parle de coups de chaud, des déshydratations. C'est vrai que c'est la première fois en trois années, en trois éditions de Tour, où on voit Pogacar faiblissant, un petit peu en retrait, en perdant un petit peu le nord si je puis dire. Et donc c'est des situations qu'on n'est pas habitué à voir, et peut-être que Pogacar lui non plus un peu déstabilisé. Va-t-il se refaire la cerise ce jour de repos pour attaquer une troisième semaine et aller au combat? C'est toute la question qui nous attend la semaine prochaine.
On parlait de trois étapes dans les Pyrénées. Jérôme, il y en aura surtout celle de Péragude qui aura lieu mercredi, je crois.
Oui, tout à fait,
Et celle de Otakam jeudi. C'est là où la différence pourrait se faire et les écarts se réduisent entre les deux hommes.
Ben, c'est là parce que c'est des arrivées au sommet après des longs cols. C'est vrai que l'étape de mardi, il y a le mur de Péguerre, mais après, il y a la descente et l'arrivée à Foix. Voilà, est-ce qu'il va tenter déjà quelque chose dans le mur de Péguerre? C'est un peu le même principe, on va dire, que la montée d'hier vers Mende. Il va pas pouvoir prendre à Vingegaard une minute dans le mur de Péguerre et après, il faudrait encore qu'il puisse résister dans la descente pour rejoindre l'arrivée. Donc, c'est vraiment à Péragude et à Otakam, ces deux dernières chances de reprendre du temps. C'est des cols très longs. Je pense c'est pour ça qu'hier, j'ai pas eu le sentiment hier qu'il s'est mis vraiment à bloc dans la montée. J'ai l'impression qu'il a testé Vingegaard, qu'il s'est mis sur un gros tempo, mais qu'il aurait pu encore monter plus vite, mais il a vu que d'une, il allait pas le lâcher, ou que s'il le lâchait, c'était pour une poignée de secondes et que ça valait peut-être pas le coup de faire un si gros effort pour ça. Et je pense qu'il garde toutes ses forces pour mercredi et jeudi.
Eh bien, nous verrons ça. Nous avons hâte d'attaquer à nouveau la montagne dans les Pyrénées, donc à partir de mardi, mais surtout mercredi et jeudi. Surtout, ne ratez pas ces étapes qui décideront du sort de ce Tour de France 2022. Petit top course, nous sommes à 152 km de l'arrivée, Pierre-Yves.
Et à 150 km de l'arrivée, 2 minutes 47 désormais pour les deux hommes de tête qui ont vu disparaître le maillot vert qui a décidé de s'arrêter au bord de la route. Wout van Aert est rentré dans le peloton. Il a considéré que cette échappée n'irait pas au bout. Mickaël Honoré et Nils Politz sont toujours devant. 2 minutes 48 d'avance. On vous donne aussi des nouvelles de Mikhail Morkov qui erre à 11 minutes à l'arrière de ces deux deux hommes de tête. Voilà le point, la situation à ce moment de l'étape, 150 km de l'arrivée.
14h22 sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de cette étape. 151 km encore à parcourir.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h23, on n'est pas parti très longtemps, rassurez-vous, on est là. On n'a même pas le temps de laisser Cyril faire sa sieste. Non, il est en train de prendre des chronos pour cette 15e étape. Non, même pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, il fait des photos. Il fait des photos. Voilà, il s'amuse cet après-midi. 150 km de l'arrivée, toujours cette avance qui a tendance tout de même à grandir depuis que Wout van Aert s'est arrêté sur le bord de la route. C'est quand même incompréhensible cette histoire, Jérôme.
Bah, tout de suite, les deux coureurs de tête font beaucoup moins peur hein, sans Wout van Aert. On leur laisse un petit peu plus de marge. L'écart va monter à autour des 3 minutes, mais je ne pense pas qu'elle aille beaucoup plus haut que 3 minutes quand même, parce que ça reste deux excellents coureurs, hein, Honoré et Nils Polite. Mais bien sûr, quand vous rajoutez à ces deux très bons coureurs un Wout van Aert, le peloton ne pouvait pas se permettre plutôt de leur laisser beaucoup d'avance. Voilà, ça permet de ralentir un tout petit peu, et puis gentiment, là, dans les 20-30 km à venir, ils vont stabiliser cet écart et petit à petit le combler avant la ligne d'arrivée.
Et puis, Christophe, on en profite, on n'a pas eu le temps tout à l'heure en début d'animation pour saluer les gens qui sont au bord de la route, les gens qui travaillent et qui nous aident aussi nous à arriver sur les sites, notamment à Carcassonne. Tout à l'heure, on fait un petit clin d'œil aux équipes de Doublet et des chauffeurs XPO qui travaillent sous la chaleur, tu sais, pour toutes les barrières, etc. Donc on fait un petit coucou à Lionel, Anthony, qui nous ont laissé passer tout à l'heure en disant on laisse passer la plus grande radio de France. Ils avaient repéré Jérôme Coppel qui était au volant de sa voiture. Un coucou aussi à Julien qui est un ancien du VC Annemasse.
Du vélo-club d'Annemasse.
Vous les avez vus où?
Là, juste avant la ligne d'arrivée, à 800 mètres de la ligne d'arrivée, ils étaient en train d'installer les barrières.
Ils ont arrêté tous les camions pour qu'on puisse passer. Donc on leur fait un petit coucou. Ils sont à l'écoute en permanence de RMC.
On les salue.
Voilà. Et puis tu as aussi le salut de Poupoute.
Poupoute,
ouais, Poupoute.
La fille de Poupou, non?
Non, c'est le chien renifleur, tu sais, qui cherche les explosifs. Ah oui. Il est venu nous voir. Il n'était pas là. Alors voilà, on lui a dit qu'on lui passerait un petit coucou.
Le fromage de Dédé, ça l'a rendu dingue. Voilà, on les a vus d'ailleurs l'autre jour s'entraîner. Il est venu avec son dresseur qui a placé des leurres,
morceaux d'explosifs,
pas des morceaux d'explosifs
pour le 14 juillet.
Et le chien a trouvé ça en l'espace d'une seconde.
Ah bah heureusement que c'est utile. Ça servirait à quoi de promener son chien sinon Poupoute, dans la zone technique?
C'est rigolo, ça.
Il s'appelle Poupoute. Ouais.
Et bah voilà, on lui fait un gros câlin à Poupoute. 14h26, on va parler de chevaux maintenant, on va parler de chiens. C'est l'heure du défi hippique avec Dimitri Blanlaï. Salut Dimitri.
RMC. Le défi hippique.
Salut Christophe, bonjour à tous. Effectivement, on est dans les animaux avant de reprendre l'intégral tour avec notamment le quintet du jour qui va nous intéresser sur Chantilly. Aujourd'hui, ça sera à 15h15, commenté en direct donc sur RMC. Alors le défi hippique, la règle c'est simple, un auditeur va venir nous rejoindre tout de suite. Il va donner un cheval dans le quintet, j'en donne un s'il termine devant moi. Il revient demain et il augmente sa cagnotte de bons à parier. C'est toujours intéressant à voir. Allez, on accueille tout de suite Florian au 32-16 qui va venir me défier. Salut Florian.
Salut à tous.
Alors Florian, quintet de galop aujourd'hui à Chantilly. Petit peloton finalement, 14 concurrents dans un handicap divisé. Tu as choisi qui toi?
Bah écoute, pour aujourd'hui j'ai choisi l'As Hooking. Donc c'est un cheval qui vient d'être très malchanceux et j'en attends un bon comportement pour aujourd'hui dans le quintet.
Ça va, t'as pas peur du poids finalement? Parce que il est en haut de tableau et qu'il portera pas mal de poids.
Un petit peu, ouais, mais bon, vu qu'il vient d'être malchanceux, après, ça reste un quintet, ça reste très ouvert, donc je tente.
Eh bien écoute, super, je note le numéro 1, Hooking, qui fait partie des favoris. Elle est proposée à la cote de 5,20€, donc le conseil de Florian. De mon côté, je prends le 6, Bazoc, avec Grégory Benoît, entraînement d'Yann Barbereau. Il est proposé à 9,10€. Voilà, Bazoc, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour aller chercher une place dans le quintet, voire même viser la victoire, puisqu'elle n'était pas à 100% dernièrement, lors de sa rentrée à Lyon-Paris, où elle a terminé 4e. Je rappelle avec Florian, si ton numéro 1 termine devant le numéro 6, tu reviens une nouvelle fois demain. Merci à toi et bon quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri. 14h28 sur la route du Tour. Nous sommes toujours en direction de Carcassonne, à moins qu'on ait changé de direction. Non, c'est bon.
C'est bien fléché. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. On rappelle que toute la route du Tour est signifiée avec des flèches jaunes qu'on aperçoit régulièrement sur le bord de la route, notamment pour que Arnaud et Marco se perdent pas et qu'ils se retrouvent en pleine campagne perdus des coureurs. Voilà, c'est important. Eux aussi, ils voient où est la course. On rappelle, c'est une bulle en fait cette course qui se déplace sur les routes de Tour. du Tour de France.
Alors Arnaud et Marco, justement, comment vous faites, vous, parce que vous n'êtes pas les, les coureurs ne sont pas les seuls à avoir soif, même si vous faites moins d'efforts. Comment vous faites pour vous ravitailler? Il y a des gens qui vous offrent à boire, ou alors vous avez chargé la moto à plein de bidons ce matin?
On a chargé la moto plein de bidons, plein de bouteilles d'eau qu'on a prises au village départ ce matin, alors que je vois une sublime image là à l'instant devant mes yeux d'une vache solitaire dans un pré, voilà, toute seule, qui domine les éoliennes. C'est absolument magnifique, les éoliennes dans lesquelles on ne voit pas de vent passer, signe qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui sur le bord de la route. Elles sont tout simplement à l'arrêt, ces éoliennes. Nous sommes dans le Tarn, et oui, donc on a pris j'ai pris, en tout cas à titre personnel, je sais pas combien Marco lui il a prévu, mais il pense stocker un paquet dans sa bosse, mais moi j'ai prévu à titre personnel 2 litres d'eau pour toute l'étape, et écoute, ça sera suffisant, sachant que j'en ai bu 1 litre ce matin au village départ. Il vaut mieux être prévoyant, hein. C'est Florence Pommery, la médecin du Tour, qui disait: si vous ne vous arrêtez pas pour uriner normalement quand il fait chaud, c'est que vous n'êtes pas assez hydraté. Je te garantis que de ce point de vue là il n'y a aucun souci. Tous les jours Marco a droit à sa petite requête pipi sur le bord de la route. Quand c'est pas une, c'est même parfois deux, comme hier. Donc voilà, mais c'est signe qu'on considère bien, il n'y a pas de souci.
Bon, il y a quelques années, mais c'était avant ça, le motard d'une radio concurrente, mais néanmoins amie, avait aussi une grosse bouteille de Ricard, hein, dans les sacoches de la moto. On salue Bernard qui peut-être nous écoute.
Oui. Oui. Voilà. Radio qui commence comme avec un R, comme RMC.
Pas, c'est bien vu, ça.
Allez, on balance, on va se faire engueuler. Non, mais voilà.
Non, mais non, c'est radio quelque chose. On dit c'est radio quelque chose.
Tout le monde, il ne buvait pas de Ricard en route. Hein. C'était pour l'apéro après la course. Voilà, hein, évidemment. Et puis buvait avec modération, évidemment. Voilà, ça c'était un petit
Et toi, t'étais pas dans le coup, Christophe?
Pas du tout, jamais.
Ah oui, d'accord, ce qui me semblait.
Très bien, je sais plus ce que je disais.
Mais en tout cas, à l'avant, Arnaud, je sais pas si tu sais ça, je viens de découvrir ça. Les deux hommes de tête, donc Nils Polite, qu'on connaît bien puisqu'il s'est imposé l'année dernière, est avec Mikkel Honoré. Mikkel Honoré qui, semble-t-il, parle 8 langues, le danois, encore un danois. Et ça me fait penser aussi que ces danois sont quand même incroyables. C'est vraiment, ils sont partout, oui, sur ce Tour de France, jours, c'est fou, hein.
C'est pas la même chose que, sans critiquer, mais c'est pas la même chose, forcé de constater que les Français, c'est vrai, alors même s'il y en avait hier dans l'échappée, c'est vrai que des Danois, on en a tous les jours dans les échappées, c'est assez incroyable. Bon, même si cette échappée, vous l'avez dit, est quand même relativement vouée à l'échec, surtout depuis que Wout van Aert s'est laissé glisser gentiment dans le peloton, mais c'est vrai qu'ils mouillent le maillot, il n'y a pas de souci. Je sais plus combien ils étaient au départ exactement, ça doit être autour des 10, mais c'est vraiment impressionnant ce Tour de France qu'ils font. Le départ à Copenhague leur a donner des ailes, et c'est vrai, hein, parce que j'en discutais l'autre jour avec Magnus Cort Nielsen, qui disait véritablement que oui, ça avait donné des ailes, le fait que le départ soit au Danemark, ça avait donné une sorte de supplément d'âme, si vous voulez, à tous ces cyclistes danois qui avaient vraiment envie de briller. Et voilà, c'est on va dire le cercle vertueux, quoi, tout simplement, pour les Danois.
Ah, donc c'est toi qui as parlé avec Magnus Cort Nielsen?
Oui, bravo. Mais j'étais plus positif à ce moment-là.
T'étais en charge descendante.
J'ai jamais été positif. Non, j'ai jamais été positif.
Tiens, alors on vous parlait hier de ce fameux village belge sur les bords des routes du Tour de France, et il me semble que Julien Richard se trouve actuellement justement dans ce village belge. Il va nous raconter, Julien. Est-ce qu'il est là, dans le village belge? Non, on va le retrouver dans un instant, a priori.
Ça passe pas bien. Ça passe pas bien chez les Belges. Ce petit village qui résiste. On va le retrouver, Julien, dans un instant. On le retrouvera cet après-midi aussi.
Le village.
Ah oui, d'accord.
Ça y est, on l'a. Julien. Allez,
on le voit tous les jours.
Hein. Julien,
oui, Christophe, on est dans ce fameux village belge avec le chef de ce village. C'est Jo. Expliquez-nous ce qui se passe. On est où, Jo, là?
Ah, vous êtes bienvenue à Noorderweg. C'est une petite devant-ville de Herentals, la ville de Rik van Looy et Wout van Aert. C'est une ville vraiment cyclisme avec beaucoup d'histoire.
Ils viennent d'où, ces panneaux de ville? C'est des vrais panneaux de ville?
Oui, c'est des vrais panneaux de ville. Oui, oui. Et ça, nous ne sommes pas un village fleuri, c'est un village bully, parce que nous sommes ici avec du bully, des vieilles Volkswagen camionnettes. Ils sont transformés sur une barre mobile, et avec la barre mobile, on suit le Tour de France chaque année. C'est pour la 12e fois cette année. Ça commence avec suivre Jurgen van den Broek, c'est un homme de notre ville aussi, et on suit le Tour de France avec les amis du Tour de France, c'est le mouvement.
Et, alors Jo, on va rentrer dans ce village, là on fait trois pas, on est rentré dans, j'arrive pas à le prononcer.
On est où là?
Noorderbeek. Hein? Noorderbeek.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à Noorderbeek?
Ah, donc ça c'est notre premier véhicule, c'est une bus de l'année 60, s'appelle Eugène. C'est Eugène Christophe, le premier maillot jaune à 1919. Trois ans passés, c'est 100 ans maillot jaune, c'est parce que le bus est jaune, avec Henri Desgrange à la soupe.
Alors c'est un bus, quand même il faut le décrire, particulier parce qu'il y a une tireuse à bière, il y a une vieille télé et on peut acheter de la bière belge.
Ah, la bière belge au fût, bien sûr, c'est des Cristal Alken, Cherichouf, Flandrien, une bière cyclisme et aussi une bière plus forte, Duvel. Ils sont des sponsors de mon petit histoire parce que mon petit histoire, ça fait un mois chaque année. C'est pas facile, beaucoup de gazole, beaucoup de générateurs. Hey Thomas, ça va? Un autre bus avec de Biggie Burgers.
Juste, je reviens sur le financement parce que tout ça, ça a un coût. Oui, oui. Évidemment, c'est ce que vous m'expliquez. Et faut le financer. Vous le financez avec des sponsors.
Oui, dus des marques, ils me sponsorent. Et aussi de Captains of Cycling et ETIAS. Ils sponsorent Wout van Aert aussi cette année. Hein. C'est chaque année des autres sponsors. Mais avec le vendu et tout, chaque année, je fais un mois. Hein. Je veux pas faire de monnaie quand il y a du profit. Je te donne à l'école cyclisme. Derek van Looy à Herentals. Donc c'est tout bon vol, mon équipe c'est aussi bon vol. C'est 10 personnes, elles dorment dans les caravanes, ils sont chouettes aussi. C'est une grande équipe, c'est tous un mouvement, c'est vacances, c'est bon vol, c'est... Comment ça s'appelle en français?
C'est la fête, non? C'est
la fête, ouais, bien ça c'est bien sûr.
Bonjour, avant de se quitter, il faut que vous nous expliquiez quelque chose, parce que chaque fois qu'on passe devant chez vous, il y a une musique très particulière. Vous allez nous la mettre, et après vous allez nous expliquer.
Ok. Chaque année, on a une chanson pour le coureur, pour trouver nous sur la route. Mais cette chanson, cette année, c'est formidable. Le publicité Caravane, il danse avec nous, il chante avec nous. C'est une très aimable chanson, c'est fantastique.
C'est quoi la chanson alors?
Les sardines. Je suis flamand, hein, mais je connais un peu le mot.
Vous connaissez les paroles un peu? Vous connaissez les paroles à force un peu? Vous connaissez les paroles un petit peu à force?
Un petit peu, c'est des sardines dans une petite boîte.
Chante les sardines. Allez, Jo, on le laisse aller danser sur la route avec ses camarades sur un tube fantastique.
Magnifique, magnifique, Julien. Les sardines du village belge sur la route du Tour de France. Magnifique, c'est tellement folklorique, j'adore.
C'est vraiment... tellement le Tour de France.
Ah, c'est tellement le Tour de France, exactement.
Mais je ne sais pas dans quel état on va le retrouver, notre ami Julien Richard, c'est ça qui m'inquiète.
Il va sentir la sardine, on va prendre tout à l'heure. À l'étape, Julien, voilà, j'en ai très particulière pour lui, on en parlera tout à l'heure. 139 km de l'arrivée, c'est le bonheur, ça, c'est que du bonheur, des tranches de bonheur, ça, hein, Jérôme.
Bah oui, c'est comme a dit Pierre-Yves, c'est ça le Tour de France, hein. C'est des passionnés qui, ouais, il fait tout le tour, il trouve des sponsors pour financer son aventure au mois de juillet, il a toute une équipe derrière lui, c'est quand même assez incroyable. Et quand on est coureur, c'est vrai qu'on retrouve souvent toujours les mêmes, enfin souvent les mêmes au bord de la route qui se déplacent d'étape en étape. Il y en a qui vous donnent des coca, qui vous donnent à boire, qui vous encouragent. Et là, l'idée de mettre la même musique à chaque fois, c'est vrai que les coureurs, bah, quand ils l'entendent, ils doivent se tourner la tête et puis ils doivent reconnaître notre ami Jo. Et
on les voit de loin, hein, parce que il y a tout.
Et on les entend.
Voit. Nous, on les double souvent le matin parce qu'on arrive à l'étape avant eux, évidemment. Mais ils sont
sympas. C'est coloré, c'est festif. Voilà, on les connaît, les Belges aussi. Hein. Ils ont cette capacité à mettre de l'ambiance. Et il évoquait les dons en fait qui étaient faits par le surplus de bénéfices à une école de cyclisme. Alors j'ai entendu Eric Van Looy,
c'est ça.
Et ça m'a fait ça a fait référence aussi à un grand champion et je regardais son âge, Eric Van Looy, 88 ans, toujours vivant, lui champion du monde sur route 60 et 61, qui était né à Grobendonk. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais pour rester dans
Cyril, tu as connu Eric Van Looy? Non, tu n'as pas couru avec lui parce qu'il est d'une génération antérieure, mais c'est un immense champion. Hein.
Si, j'ai couru,
couru avec lui,
oui, tout à fait.
Tu es donc plus vieux que je ne le pensais alors.
Mais j'étais pas assez jeune. Non, je l'ai bien connu. J'ai couru quand même une année ou deux années avec lui. Enfin, une année, oui. La deuxième, je ne sais plus. Dans deux années, puisque 69.
Il gagne la Flèche Wallonne en 68 encore.
Oui, mais il me permet de faire 7e de Paris-Roubaix.
Ah oui.
Ton meilleur résultat sur Paris-Roubaix?
Quand j'ai fini. Ah oui. Oui, parce qu'on était parti au départ de Compiègne, puisque je vais faire une mini musette.
Mini musette, mais grand tunnel, là, on le voit arriver.
Donc l'échappée était partie, lancée d'ailleurs par José Samain et moi. Et on s'est retrouvé une vingtaine devant, tous les favoris, parce que ça a monté. En fait, on est parti, on a attaqué tous les deux, parce qu'il y avait du vent et ça a fait une bordure et c'est allé à l'arrivée. Et dans le final, il y avait un coup qui était parti avec Godefroot et quelques autres champions flamands dont je me souviens plus les noms. Merckx, je crois.
Ah bon?
Et puis, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, d'un seul coup, je me prends un coup de fringale. Et Rick était, parce que Rick avait pas raté la bonne, bien sûr. Et puis, je lui demande s'il a pas à manger, il m'a filé à bouffer. Donc, ce qui m'a permis de ne pas avoir de coup de fringale. Et à la sortie, je l'ai arrangé lui et son équipier circuit au sprint sur la
piste. Toujours sympa, Cyril. Je te donne à manger, mais par contre, tu n'auras pas les primes de victoire.
Voilà, donc, mais de toute façon, Rick n'a pas fait le sprint circuit, puisqu'il fait Patrick circuit, puisqu'il fait juste derrière moi. Mais pour moi, c'était important de faire septième. Pour Rick Van Looy, ça n'avait pas une grande importance, et pour Patrick circuit, beaucoup moins.
C'était un personnage, Rick Van Looy. On parlait de sa garde rouge aussi autour de lui.
Alors ça, je ne l'ai pas connu, c'était avant, c'était l'équipe Saulo. Voilà. Et puis j'ai une autre anecdote avec Rick Van Looy. C'était alors là, la première année, on faisait Paris-Luxembourg, et dans la dernière étape, qui faisait 260 km, il sort dans une échappée. Enfin, il part à trois, Jan Janssen, Ubrecht et Rick Van Looy.
Quelle mémoire quand même, tu fais du
ça. Bah non, parce que c'est moi qui gagne l'étape. Ah, quand je gagne, en principe, je m'en rappelle. Et puis Antonin Maille, le matin, m'avait dit, tu sais Cyril, sur des étapes comme ça, la bonne échappée, elle part toujours au bout de tant de temps ou à tel kilométrage. Et là, je regarde, quand je vois les trois parties devant, je me dis mais on est dans la fourchette. Et donc là, je sors et j'ai un type qui vient dans la roue. Je dis mais qu'est-ce qu'il vient foutre celui-là, un grand avec qui je ferai des six jours plus tard, et qui était équipier de Rick Van Looy, Peter Post. Ah bah, je dis, bon, il va pas rouler avec moi, celui-là. Donc, c'était au 60e kilomètre, il restait 200 bornes. Je finis par boucher le trou sur Janssen, Van Looy et Ubrecht. Et on va jusqu'à l'arrivée. Dans le final, on se détache avec Jan Janssen. Et je bats Jan Janssen au sprint. Ou plus exactement, il a été déclassé parce que m'a mis un coup dans les balustrades à droite et un coup dans les balustrades à gauche. Et je gagne l'étape, la dernière étape du Tour de Luxembourg. Donc, Van Looy, oui, mais c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, sachant déjà que quand j'étais môme, j'avais énorme.
Oui, c'est ça.
Il faisait partie des coureurs que je regardais avec des grands yeux, parce qu'en plus, il s'attaquait à Jacques Anquetil de temps en temps, alors j'aimais pas trop.
Tu avais 13 ans et 14 ans quand il a été champion du monde en 60 et 61, et il a 371 victoires professionnelles.
Énorme. Christophe, Jérôme, vous avez autant de souvenirs de ces moments de course? Est-ce que vous vous rappelez de tous les jours de course que vous avez fait? Ou alors uniquement des victoires, ou alors des moments où vous étiez échappé, Christophe?
Oui, forcément. On a des souvenirs, et notamment sur les grandes épreuves, le Tour de France bien évidemment, en tant que coéquipier, en tant que jeune coureur, en tant que néo-pro, en tant que leader. C'est vrai qu'il se passe des tas de choses dans une équipe, il y a des faits de course, des bons moments, des moments dramatiques, difficiles, et c'est ce qui fait toute la beauté de ce sport, et l'engouement du public et de la France et des supporters. Et même si on a des carrières qui durent plus ou moins longtemps, on a toujours des histoires avant, pendant et après la course.
Alors messieurs, vous allez avoir 3-4 minutes pour réfléchir et me sortir la plus belle anecdote d'une journée de course sur un grand tour ou sur Jérôme, il est immense, j'ai pas de souvenir. Si Jérôme, tu vas en trouver un.
Si, mais il y en a qui n'osent pas raconter. Il les raconte quand les micros sont fermés, mais
n'importe quoi.
Bon, mais tu vas réfléchir, tu vas te creuser la tête et tu vas nous trouver ça. On revient sur la course, 14h42 sur RMC, on est toujours en direction de Carcassonne. On va faire un petit top course avec toi, Pierre-Yves, alors que l'écart est en train de grandir entre les deux hommes de tête et le peloton. Le top course.
À 136 km de l'arrivée, les deux hommes de tête se retrouvent dans la côte d'Ambialet, dans cette étape entre Rodez et Carcassonne. Il leur restera encore donc 133 km à parcourir quand ils seront au sommet. Ces deux coureurs sont Nils Polit, le germanophone, l'allemand de la Bora, et Mikkel Honoré, le danois de l'équipe Quick-Step. Donc 3 minutes 08 d'avance sur le groupe Maillot Jaune. On vous donne toujours des nouvelles de Mikkel Morkov, qui lui est à un quart d'heure derrière ces deux hommes.
RMC Intégral Tour.
Allez, on s'arrête quelques instants et on revient pour la suite de cette étape avec à venir donc les anecdotes de Christophe Moreau et de Jérôme Coppel. Jérôme qui est en train de regarder sur internet pour essayer de se souvenir d'un truc. Ah, c'est ça quand on n'a pas de cerveau.
Non, même pas. Je suis concentré sur la course là.
Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que là il faut être très attentif hein, parce qu'il se passe tellement de choses.
Le palmarès de Honoré pour tout savoir.
Ah oui, très bien, très bien. Okay. Il y avait des origines françaises puisque il y a 3 siècles les Honoré qui étaient des Huguenots sont partis au Danemark. Donc il aurait pu être français, on aurait presque pu avoir une victoire française. Hein, s'il n'y avait pas eu l'Eddy de Nantes, eh bien okay. Voilà.
L'Eddy de Nantes, c'était pas Cyril Guimard,
c'était le surnom de. Oui. Ouais. Ça s'écrivait pas pareil.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette 15e étape, toujours sous la chaleur, en direction de Carcassonne. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h45 sur RMC, il fait beau, il fait chaud toujours sur la route du Tour de France aujourd'hui en direction de Carcassonne. La première difficulté du jour, classée en 3e catégorie, c'est la côte d'Ambialet. Il n'y aura pas beaucoup de lutte a priori, avec toujours les deux hommes qui sont en tête et qui vont la franchir dans un peu moins d'un kilomètre maintenant, Pierre-Yves.
Oui, 960 mètres à parcourir pour les deux hommes qui ne vont pas aller bagarrer. Hein. Ils ont suffisamment à faire déjà, c'est pas pour aller chercher deux petits points pour le prix de la montagne qu'ils sont partis aujourd'hui, c'est bien pour éventuellement et notamment pour Nils Polite réussir le coup qu'il avait réussi l'année dernière, pas très loin d'ici, en s'imposant. 134 km encore à parcourir, 3 minutes 07 d'avance pour les deux hommes de tête, il faut le dire. Il y a très très peu de chances que ces deux-là aillent à l'arrivée et qui lève les bras aujourd'hui. On saura ça tout à l'heure. 134 km à parcourir, 3 minutes d'avance pour les deux hommes de tête.
Merci, monsieur Leroux. 14h46, je crois qu'il est l'heure de parier, messieurs. Ben oui, on va sortir de notre torpeur et ensuite on écoutera les anecdotes de Christophe et de Jérôme. Mais tout de suite, c'est l'heure des paris.
Les paris RMC.
Avec Johan Bredov. Salut Johan.
Oui, messieurs, salut à tous.
Bon, alors vous avez déjà parié tout au long de la matinée, je sais.
Oui.
T'as eu des changements de paris en plus hein, de la part de Pierre-Yves.
Non, pas du tout.
Non, il est resté.
Non, je suis resté. Okay. J'ai donné une grosse cote en plus pour les gens qui voulaient gagner de l'argent.
Je suis sûr.
Exactement. Ouais.
C'est autorisé ça.
Ah oui, n'essaye pas de me ridiculiser.
Non, parce que je
le fais très bien tout seul, tu sais.
200 francs suisses d'amende quand même, tu vois. Ça pourrait, hein, parce que Paris en dehors de la zone réglementaire, c'est pas autorisé. Alors, Johan, quels sont les favoris de l'étape? J'imagine que les cotes ont légèrement bougé depuis le début de cette étape, et notamment depuis que Van Aert est revenu dans le peloton.
Oui, c'est ça. Celle de Van Aert n'a pas beaucoup bougé. Elle est restée à 5 d'ailleurs, qu'il était devant ou pas. Mais le grand favori, c'est Jasper Philipsen, sa cote à baissé jusqu'à 3 maintenant. Ensuite, on a Dylan Groenewegen à 6, tout comme Mats Pedersen. Fabio Jakobsen est à 8. On retrouve Caleb Ewan et Peter Sagan à 20. Et on a les deux échappés du jour, Mikel Honoré et Nils Polite à 25.
Messieurs, Christophe a pas donné son pronostic hier. On va donc aller vers lui directement. Il a le droit parce qu'il arrive comme ça. Il vient nous voir une ou deux fois par semaine. Donc on va lui donner la priorité. Christophe.
Je suis un petit peu embêté parce qu'il y a déjà ce coureur qui a été choisi par notamment Jérôme. C'est la grosse cote du jour. C'est Philipsen, bien sûr. Et j'aurais donné en deux Groenewegen, pourquoi pas. Et puis
ses équipiers ont continué de rouler en tête de peloton. Enfin, ils l'ont fait pendant un long moment, en tout cas.
Allez, Philipsen, je te laisse, Jérôme. Et je vais dire Groenewegen. Je ne sais pas si quelqu'un l'a choisi déjà au préalable, mais moi, c'est ma petite pièce du jour.
Ok, Groenewegen pour Christophe Moreau. Jérôme, donc, toi, tu restes sur.
Je reste sur Philipsen. Il a mis ses coéquipiers à l'avant du peloton. Il a de l'ambition. Il passe bien les bosses. Il tourne autour de la victoire depuis plusieurs années sur le tour. Je pense que c'est son jour.
Le jour de Philipsen. Il n'a pas encore remporté la moindre étape sur les routes du tour.
Bah, il a levé les bras quand même une fois, mais il était deuxième.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié l'anecdote. Cyril, tu as aussi misé sur Philipsen. Oui, mais avec le bouton.
Oui, avec les mêmes arguments que Jérôme.
D'accord. Ok. Donc,
Non, il y a
rien
d'autre
à dire pour ta défense. Non,
comme ça, personne ne me coupera la parole. Et comme tout à l'heure, on m'a mis en garde de ne pas faire un tunnel.
Donc, il est susceptible, le druide. Oh là 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 là.
C'est dimanche, la chaleur.
Oui, il n'a pas été à la messe ce matin.
Oui, puis il fait 35 degrés sur la route du Tour en ce moment.
Ça va, tu es à la clim tranquille dans le camion.
Ouais, Marcel, je trouve qu'elle n'est pas très forte aujourd'hui. Ou alors, c'est la température extérieure qui est plus importante.
40 degrés dehors, oui, c'est surtout ça.
Pourtant, Jérôme qui brasse de l'air à côté de toi, normalement, ça devrait aider.
Avec les oreilles.
Pierre-Yves.
Non, mais alors ce qui est important, c'est de regarder la configuration de la fin de cette étape et notamment les 60 derniers kilomètres. Donc ça va débuter maintenant dans un peu de temps, 70 kilomètres, parce que on a ce sprint à Saint-Ferréol. Donc il y a que deux hommes qui sont devant. Donc on peut imaginer qu'il y ait une petite bagarre dans le peloton pour aller chercher les points de ce sprint intermédiaire. Et la côte des Camaz, elle est juste derrière. Elle est à 7 kilomètres derrière. Donc il va y avoir une impulsion à ce moment-là. Et il y a très certainement des choses qui vont se passer, notamment pour les sprinteurs qui sont des sprinteurs de plat un peu lourds et qui pourraient donc péter à ce moment-là. Et ça va être le petit jeu. Et c'est pour ça que moi, j'ai reparié à nouveau sur Michael Matthews en me disant que Dylan Groenewegen allait pas passer cette côte. Et comme Michael Matthews, on l'a expliqué hier, a des ailes dans le dos, ça va être forcément plus facile pour lui.
Ok, donc deux victoires d'affilée pour Matthews, c'est ton pronostic. Voilà.
Ouais, c'est
on
parti.
Rappelle que tu as loupé la bonne hier, hein, parce que le seul
non, jour
où
hier, avant-hier, lui, tous les jours depuis le début du tour.
Aujourd'hui, tu paries à nouveau sur lui. On verra s'il est capable de remporter une étape deux jours consécutivement.
Et c'est 50 victoires de Michael Matthews.
Là, oui, mais moi je pense là que Matthews ne peut pas faire aller gagner aujourd'hui, il a gagné hier, ça va.
Donc, ça, c'est un argument.
C'est l'argument du druide.
C'est comme les Danois, ça va.
Non, mais à chaque fois qu'il l'a parié, il n'est pas là. Le jour où il ne parie pas, il gagne.
C'est ça, je vois pas. C'est ça, puer le vélo, ça.
Il pue les paris, surtout.
Tu peux me rappeler combien de bons résultats tu as donné, Cyril?
Comme toi.
Voilà.
Je crois que ce sont les deux seuls à être Fanny. Hein,
exactement.
C'est ça,
zéro. Okay.
On est placé, mais jamais gagnant.
Ah, ben oui, c'est déjà pas mal.
Cyril Guimard a donné une seule fois un homme sur le podium. Placé, pas beaucoup.
Il est vraiment encore moins bien que moi, alors, au maillot vert.
Ça doit remonter à longtemps, parce que je m'en rappelle plus.
C'était Van Aert lors de la première étape.
Ah, oui, effectivement.
Ah, oui, je crois que c'était en 2020.
Arnaud, alors je sais pas quand il a donné son pari, parce que tu sais qu'on le surveille celui-là.
Il me l'a donné.
Il te l'a donné hier soir?
Il y a 3 minutes, je l'ai donné.
Ah, il y a 3 minutes? Non, t'as pas le droit, ça. C'est interdit.
C'est pas vrai.
Indépendamment du scénario de course du jour, j'aurais de toute manière joué Wout Van Aert. Et je maintiens mon Wout Van Aert encore plus parce que je viens de passer à Noorderweg, justement sur la route du Tour, avec ces Belges qui mettent l'ambiance. Non, Wout Van Aert pour moi, incontestablement.
Ok, mais c'est mon pari aussi, je crois. Hein. C'est
oui, ça, tout à fait. Et moi aussi, j'avais donné Wout Van Aert.
D'accord.
Tout à l'heure. On est 3 sur.
Johan, est-ce que la cote a vraiment changé dans l'étape, comme il était devant, que maintenant il est à nouveau dans le peloton?
Alors, il était à 6,50 avant l'étape. Il est tombé à 5, il me semble, si je me rappelle bien, quand il était échappé. Et maintenant, il est à 5. Voilà, tu vois, donc ça bouge pas beaucoup pour Wout Van Aert. Hein.
Très bien, merci Johan. On se retrouve ce soir vers 19h45 pour faire le point sur ces paris. On verra si Pierre-Yves parvient enfin à donner un bon pronostic et si Cyril parvient enfin à avoir un coureur
podium
dans les trois, un podium. On lui demande pas la lune, pas une victoire, mais au moins un podium. Merci Johan.
RMC Intégral Tour.
14h52, il fait toujours chaud, très chaud ici à l'arrivée à Carcassonne et c'est également le cas sur l'étape. Est-ce que tu sens la température monter encore un peu plus, Arnaud, sur la moto?
Ah bah, on a fait cuire des œufs sur la moto avec Marco. On a atteint les 41 degrés il y a quelques instants. On est rebaissé à 39, mais en bas de la difficulté précédente, c'était dans une cuvette et il faisait excessivement chaud. Il tombe du feu sur la route du Tour aujourd'hui. Il y a même pas d'air rafraîchissant véritablement pour faire redescendre la température. Donc vraiment la chaleur là qui est accablante, ça doit pas forcément être évident de faire du vélo. Je suis pas trop mal sur la moto là actuellement.
Merci Arnaud, très très chaud évidemment et la température qui continue de monter. On atteindra le sommet de la température aux alentours de 17h ou 18h tout à l'heure, au moment justement où les coureurs arriveront à Carcassonne. On est encore à 130 km de l'arrivée. On les voit s'asperger régulièrement en dos. Il faut surtout éviter le coup de chaud. On écoutera Romain Bardet tout à l'heure. Romain Bardet interrogé ce matin par Kevin Morand, je pense, ou alors moins que ce soit Julien ou Arnaud qui nous parle bien de cette chaleur et de ces jours qui s'accumulent. On rappelle qu'hier, il a laissé quelques petites secondes, Romain Bardet. Il avait des jambes en feu. Est-il encore en feu aujourd'hui? On l'écoute.
Jour après jour, on survit à la chaleur, on se met à l'ombre quand on peut et puis on continue la route. Non, on reste tranquille, c'est dur. On essaie de faire le mieux tous les jours je pense qu'avec la fatigue qui commence à s'accumuler, j'espère qu'en première semaine, il y aura des opportunités comme il y en a eu sur la table du Granon. Je suis content d'être devant de nouveau, d'avoir été pour l'instant consistant dans le match.
Bien sûr, je préfère être dans les deux meilleurs grimpeurs, mais c'est pas le cas. Donc, que ça, faut essayer d'être plus malin pour trouver les opportunités pour briller. Mais pour l'instant, c'est très positif le bilan. Bah oui, c'est compliqué. De toute façon, tout le monde est à la limite. Donc, voilà, on fait avec ses forces et ses moyens. Mais il n'y a pas eu de perte de temps rédhibitoire et je suis encore dans le match. Donc, tous les rayons sont ouverts.
Les voyants sont au vert, nous dit Romain Bardet, qui a réussi une belle semaine, même s'il perd quelques petites secondes. Il a perdu quelques 19 secondes, je crois, dans l'Alpe d'Huez l'autre jour. Hier encore quelques petites secondes. Ça va être dur quand même de se hisser sur le podium, Christophe. Hein.
Ah, ça va être un petit peu compliqué. Il limite très très bien, comme en Romain, à cet effet. Mais un petit coup de chaud par-ci, un petit coup de chaud par-là, et des secondes toujours qui s'accumulent. Ça va être compliqué sur les Pyrénées, et surtout compliqué d'aller chercher le podium, à mon avis, dans ces conditions-là. Maintenant, il est résistant, il a l'expérience, et la troisième semaine peut peut-être lui sourire. Mais on l'a vu quand même pas à son aise ces derniers jours, quand même, malgré tout.
Ouais, c'est de la chaleur. Il le dit. Il a vraiment subi un coup de chaud dans la montée de l'Alpe d'Huez, et hier encore, ça a été dur. Si vous aviez messieurs, un Français sur lequel miser pour un podium, ce serait plutôt David Gaudu ou Romain Bardet, à l'état actuel des choses. Un jour, c'est l'un qui prend un éclat, le lendemain, c'est l'autre. Enfin, ce sont des tout petits éclats. On rappelle qu'ils sont toujours bien classés. Quatrième pour Romain Bardet, huitième pour David Gaudu. Il y a peu d'écart en termes de secondes entre les deux hommes. Lequel voyez-vous plus sur le podium que l'autre? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place sur le podium. Hein. Il n'y en aura que trois. Et puis, il y en a déjà quasiment deux qui sont prises. Hein.
Oui, c'est dur de les départager. Ils sont à peu près au même niveau depuis le début de ce tour. Moi, j'aurais tendance à pencher un peu pour Romain Bardet parce qu'il a l'expérience du podium sur le tour. Il l'a déjà fait. Il sait ce que c'est la pression de jouer le podium d'un grand tour. Il arrive dans les Pyrénées où il a déjà gagné sur le Tour de France aussi à Peyragudes. Bon, voilà, je pencherai un tout petit peu pour Romain Bardet, mais c'est vraiment pas sans conviction. Sans certitude, voilà, plutôt parce que pour moi, ils sont tous les deux au même niveau depuis le début de ce tour. Au niveau du chrono, ils se valent à peu près tous les deux, je pense. Donc pour Rocamadour, ça va pas changer grand chose entre les deux. Mais Romain, à la faveur de son expérience, de ses différents podiums sur le tour, je pense qu'il a un petit avantage.
Christophe, Bardet, oui. Gaudu.
Oui, effectivement. Maintenant, hier, il nous a fait des révélations, David Gaudu, en disant que, en lâchant les chevaux et
débranchant le cerveau,
en faisant péter le cadenas qu'il avait mentalement, en disant, ben, retiens-toi, je vais péter. Finalement, il a fait une excellente fin de montée, sûrement. Il s'est surpris, ça l'a surmotivé. Il y a eu un déclic qui s'est passé. Mm-hmm. Alors peut-être, ça peut être un bon déclic. Il a une 30 derrière Bardet, donc à suivre. Et puis le Tourmalet, il connaît très bien avec la victoire de Pinot il y a deux ans quand il l'avait accompagné. Donc on peut s'attendre à une belle surprise. Moi, j'avais misé Gaudu du côté de la plongée Belfi. Je reste sur David Gaudu pour le podium.
Très bien. Et Cyril, donc pour l'instant, on a un partout. Un pour Bardet, un pour Gaudu. C'est toi qui vas donc départager nos champions, Cyril.
Je pense que David Gaudu me semble sur une phase un petit peu ascendante sur ce qu'on a pu voir les dernières étapes et hier entre autres. J'ai plutôt le sentiment que Romain est laborieux. Mais d'un autre côté, il y a quand même 1:20 d'écart entre les deux hommes. Il faudra que dans les trois étapes de montagne, il fera quand même que Gaudu se rapproche. Mais je pense qu'il a les moyens.
Il y a aussi le chrono. Il est a priori plus performant que Romain Bardet.
Sauf que je l'ai vu faire un très bon contre-la-montre autour de Suisse.
Eh bien, nous verrons lequel de ces deux-là monte sur le podium, en espérant que l'un des deux y parvienne, parce qu'il y a toujours un certain Geraint Thomas qui est devant et qui fait mieux que limiter les dégâts, vainqueur du Tour en 2018. 14h58, les infos de 15h arrivent dans un instant, on se retrouve après, toujours en direction de Carcassonne. L'écart est stable, Pierre-Yves, entre les deux hommes de tête et le peloton?
Oui, ça va se jouer entre 2 et 3 minutes, là encore, pendant un petit moment. On verra si il se relève ou pas, mais voilà, c'est actuellement 2 minutes 33.
Allez, on se retrouve juste après les infos de 15h. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.